Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui, Foucault Giuliani. Vous êtes enseignant en philosophie, engagé dans l'Église, notamment comme cofondateur du café associatif Le Dorothy à Paris, un lieu qui propose, en plus des bières et des cafés, des ateliers divers, des temps de formation et d'échange, un espace de rencontre et d'engagement social. Vous êtes également membre du collectif Anastasis, dont vous nous parlerez peut-être tout à l'heure un peu plus. Et vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, La communion qui vient, écrit en 2021 avec Anne Welles et Paul Colras, en 2022, La vie dessaisie, donc des livres que vous pouvez trouver dans la table de presse, la table de librairie plutôt. Ces deux titres dessinent déjà un horizon. Et vous venez de préfacer une réédition d'un philosophe, d'un écrit d'un philosophe bien connu des Grenoblois, du moins son nom, à défaut de connaître bien sa pensée, Emmanuel Mounier. Le titre de ce livre, c'est L'affrontement chrétien. Et donc, vous nous parlez aujourd'hui de l'engagement chrétien, réflexion sur l'engagement chrétien. Alors, la question, le thème est vaste. La question n'a cessé de se poser au long des siècles, mais à chaque époque de manière singulière. Le contexte d'aujourd'hui étant celui d'une Église qui traverse de nombreuses crises et d'un monde avec des défis de plus en plus immenses à relever, dans les domaines écologiques, sociaux, migratoires notamment. Alors, quelle est la place des chrétiens au cœur de ce monde? Comment penser ensemble leur engagement dans le monde et la révolution spirituelle, une expression que vous employez dans vos livres? La vie chrétienne comme communion et le service des plus pauvres, l'abandon, la démaîtrise, dont il est question également dans vos ouvrages, et l'engagement, y compris dans sa dimension politique, la vie intérieure et la parole prophétique. Vos livres et vos engagements témoignent de cette recherche, et c'est pourquoi nous avons pensé que cette réflexion pourrait aider toutes celles et ceux qui cherchent à vivre au mieux cet engagement chrétien. Merci à vous de nous aider à y réfléchir. À tous.
Oui, ça va mieux? Comme ça? S'approcher un peu. Ouais, super. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très heureux de découvrir le CTM. Je mets juste un petit chronomètre histoire de ne pas déborder, parce que l'idée, c'est aussi d'avoir un échange et pas seulement parler tout seul. Voilà, je suis très heureux de découvrir. Merci pour la qualité de votre accueil. Je suis de Lyon à l'origine, donc maintenant je vis à Paris et dans l'Aisne. Dans le nord de la France, je compte les deux territoires, mais c'était l'occasion pour moi de venir dire bonjour à mes parents ce week-end, et aussi donc de venir à Grenoble qui est pas loin. Alors réflexion sur l'engagement chrétien, réflexion ce sera au pluriel. Il y a toujours un orgueil un peu à mettre les mots au singulier, je trouve. Réflexion comme si c'était la seule et unique réflexion, non. Je vous partage des réflexions sur l'engagement chrétien, mais je n'ai pas prétention à ce que ces réflexions soient les seules valides ou qu'elles disent tout du concept d'engagement. Cette notion d'engagement, première chose à remarquer à mon avis, c'est qu'elle n'est pas propre aux chrétiens. Ce n'est pas un terme comme par exemple peut l'être celui de charité qui est, on pourrait dire, vraiment ancré théologiquement, presque exclusivement. Non, le terme d'engagement, lui, il a une histoire différente. C'est presque plutôt du vocabulaire, disons, de l'humanisme existentialiste et du XXe siècle notamment. Les philosophes qui ont mis en avant l'idée d'engagement, on pense pas mal à Camus, à Sartre, même si du côté de l'existentialisme chrétien, cette notion d'engagement est aussi un usage. Mon objectif, ça va être peut-être d'une part de vous montrer l'originalité de cette notion d'engagement lorsqu'on l'aborde d'un point de vue croyant. C'est-à-dire lorsqu'on la met à la lumière de la foi. Car au fond, je crois que là se situe la seule originalité d'une pensée chrétienne, c'est qu'elle tente de penser à la lumière de la foi. Et que donc cette foi, c'est finalement l'objet principal qu'il s'agit d'expliciter, de traduire, de comprendre lorsqu'on fait un exercice de pensée d'un point de vue chrétien. En quoi la foi nous donne un regard particulier sur le monde, en l'occurrence sur cette notion d'engagement. Donc ma mission va être celle-là, d'expliciter un peu, de déplier le sens de l'engagement vu à la lumière de la foi d'une part, et puis d'autre part, peut-être de me marier un peu plus et de vous faire part de mes convictions en matière de contenu de l'engagement dans l'époque que nous vivons. Alors en introduction, j'aimerais tout d'abord dire que autour de la notion d'engagement, il y a, il me semble, deux problèmes principaux. Vous savez qu'en philosophie, souvent, on déconstruit un peu des problèmes pour ensuite tenter d'aller vers le chemin d'une réponse, si l'on peut dire. Le premier problème, c'est un problème définitionnel, je dirais, hein, qui porte sur la notion même d'engagement. C'est que souvent, on a une approche très abstraite et tronquée de la notion d'engagement. Comme si finalement l'engagement avait un sens par lui-même. D'ailleurs, on parle souvent d'une personne engagée, mais c'est très vague. Et lorsqu'on dit c'est une personne engagée, on suppose que les autres le sont pas ou moins ou pourraient ne pas l'être du tout. Or, je crois qu'il y a déjà là un problème. Car avant même d'être engagé au sens où souvent on l'entend, c'est-à-dire de poser des actes réfléchis, volontaires, militants et d'en témoigner, avant même cela, je pense qu'il faut dire que nous sommes tous pris, nous sommes tous finalement presque englués dans des engagements qui nous précèdent. Nous ne sommes pas ex nihilo. Nous n'arriverons pas sur Terre coupés des engagements de ceux qui nous précèdent et qui, par exemple, nous éduquent, si on pense au cadre de la famille. Bref, je pense que là, il y a un problème et qui demande du coup de repenser l'engagement, non pas seulement de le voir comme un acte libre, volontaire, personnel, mais de le voir bien plus comme une situation qui nous concerne tous. Et qui signifie tout simplement le fait d'être pris dans des relations de dette, de dépendance, de participation à des structures plus larges que nous. À peine sommes-nous nés, nous avons déjà contracté un ensemble de liens d'interdépendance. Nous ne sommes pas des individus. Nous naissons et nous sommes immédiatement des êtres sociaux. Et je pense donc qu'il faut, première chose, du coup, du fait de ce problème définitionnel, voir qu'il y a un problème derrière qui est anthropologique. Car derrière la définition de l'engagement comme un sujet libre, volontaire, personnel qui fait des choix qui l'engagent contre des gens qui ne seraient pas engagés, au fond, on a une anthropologie libérale, individualiste, et on n'a plus une anthropologie relationnelle, personnaliste. Et donc je pense que l'idée de penser l'engagement comme une situation déjà là qui nous concerne tous, c'est conforme à l'anthropologie relationnelle, personnaliste. Et je pense que cette anthropologie est bien plus proche et conforme à la pensée chrétienne que la première anthropologie. Et une autre raison pour laquelle je pense qu'il est bon de penser l'engagement ainsi, c'est que l'étymologie même de l'engagement suggère une interprétation de cette sorte. En effet, engagement dérive de gage et signifie plus précisément mettre en gage. Être engagé se rapproche donc d'être endetté. Ça traduit l'idée que notre existence, dans ses conditions mêmes, dans ses traits essentiels et dans ses orientations fondamentales, découle d'un en dehors de nous-mêmes. Et c'est en dehors de nous-mêmes, encore une fois, eh bien, on le constate très bien lorsqu'on comprend qu'un être humain, c'est toujours un être social. Seul, il n'est absolument rien. Hein. Un être coupé de la société ne se développe pas. Il se développe pas cognitivement, culturellement, etc. Et donc, je crois qu'il faut partir de cette idée que nous sommes des êtres engagés, dans le sens que nous sommes des êtres endettés les uns envers les autres, envers la société, et du coup envers les structures que cette société met en place et sur lesquelles elle se déploie. Nous sommes, pour le dire un peu, mais il faut enlever toute négativité, je crois, à ce terme, des êtres aliénés. Notre condition est d'être aliénés. Il faut, à mon avis, casser cette image de l'aliénation forcément comme négative. L'aliénation au sens psychologique, évidemment, est négative. Mais si par aliénation, on entend le fait d'exister dans l'autre, par l'autre, avant d'exister en tant que soi-même, je pense que c'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question de fait objectif. C'est un fait objectif. Donc ça, c'était le problème, le premier problème définitionnel, et je pense que voilà, c'est un premier postulat qu'il faut poser lorsqu'on parle d'engagement. L'autre problème, il est plus éthique, celui-là, et non pas définitionnel, c'est que quand on parle d'engagement, j'ai l'impression qu'on oscille toujours entre soit l'intransitif ou le transitif. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Intransitif, c'est justement qu'on parle d'engagement sans préciser souvent de quoi, pourquoi, sans expliciter vraiment les raisons profondes de notre engagement, comme si le terme avait une sorte d'aura qui se suffisait à lui-même. Je pense que c'est problématique. Ou alors, on fait l'erreur un peu symétrique inverse, c'est-à-dire qu'on voit l'engagement comme purement transitif, c'est-à-dire qu'on parle que de la cause qu'on défend, de l'objectif qu'on vise, comme si dans le fait même de s'ouvrir dans un engagement, dans le fait même de se donner comme être engagé, il n'y avait pas déjà un sens à aller interroger. Et je crois que la foi chrétienne là-dessus est extrêmement intéressante car elle déconstruit ces deux erreurs. En effet, si on comprend l'être engagé au sens chrétien comme un être qui parviendrait à faire de sa vie incarnée dans le monde un don de soi, alors on voit bien que ce don de soi vaut en lui-même, sa signification est déjà intérieure à lui, par exemple dans une expérience spirituelle qui nourrit cet être donné, mais que cet être donné, évidemment, se traduit par des combats, par des objectifs, par des finalités qu'il poursuit. Donc on déconstruit à la fois l'engagement tourné seulement vers l'horizon, ou l'engagement, on pourrait dire, qui est dans une forme de narcissisme envers lui-même. Voilà. Et donc je crois que ce faisant, comme avec mon premier problème, on déconstruisait l'anthropologie libérale, ici on pourrait dire qu'on déconstruit et le pragmatisme et l'idéalisme. Le pragmatisme qui se concentre que presque sur les moyens, en vue de fins qui sont séparées des moyens, et l'idéalisme, lui, qui a tendance à fantasmer une fin, comme si c'était que dans l'horizon que l'on existait. Ma question, du coup, ce serait la suivante. Que peut signifier le fait d'être engagé au sens d'être déjà pris dans des situations d'engagement qui nous précèdent et de parvenir à les peut-être convertir pour pouvoir y substituer l'être engagé au sens d'un don de soi qui a un sens en lui-même et aussi à travers des combats à mener. J'entends un premier temps qui va un peu explorer notre situation, c'est-à-dire penser notre condition humaine. Un deuxième temps où je vais plus m'intéresser à la relation entre l'engagement et l'histoire. Et un troisième temps où je vous dirai plus un mot du contenu concret de mes engagements en termes aussi de témoignages pour un débat, je l'espère, ensuite. Alors, notre situation, j'ai décidé de partir d'une citation d'Emmanuel Mounier, qui est un auteur qui m'intéresse beaucoup, même si je suis aussi un peu en débat sur pas mal de choses avec lui, mais en tout cas, il m'intéresse beaucoup. Et en 1949, donc, dans le personnalisme, Emmanuel Mounier écrit: Nous ne connaissons jamais de situation idéale. Le plus souvent, nous ne choisissons pas les situations de départ où notre action est sollicitée. Ces situations de départ nous attaquent. Il nous faut répondre sur le champ. On parle toujours de s'engager comme s'il dépendait de nous. Mais nous sommes engagés. Nous sommes embarqués. Nous sommes préoccupés. Et c'est pourquoi l'abstention est une illusion. En 1936, qui ne faisait pas de politique faisait passivement la politique du pouvoir établi, donc était favorable à Hitler. Alors, cette citation, je vais revenir sur des petits passages. Je pense qu'elle est très riche. Déjà, je pense que mon nom nous apporte peut-être moins sur le contenu de ses engagements que sur son attitude. C'est quelqu'un d'admirable par l'attitude qu'il a tenté d'incarner dans l'histoire, qui était une attitude, je crois, d'attention toujours à l'événement. Hein. Monnier, en cela d'ailleurs, il a très bien retenu, à mon avis, la leçon de son grand maître Peggy, qu'il n'a pas connu, mais qu'il a beaucoup nourri philosophiquement et spirituellement. C'est une philosophie de l'attention à l'événement. Nous ne sommes pas là pour bâtir des programmes, même si nous pouvons avoir des idées d'objectifs à atteindre. Nous sommes d'abord là pour tenter de guetter ce qui, dans le temps présent, exige notre attention et notre action. Alors, l'analyse du passage, première phrase que j'ai trouvée intéressante, nous ne connaissons jamais de situations idéales, nous dit Mounier. En effet, si nous attendons d'attendre l'opportunité telle que nous l'imaginons avant d'agir, nous n'agirons jamais, puisque le contexte n'est jamais tel que nous l'avions imaginé, le contexte ne dépend jamais de nous, et donc c'est nous qui devons négocier avec lui et non pas lui qui doit se conformer à nos attentes. Donc la première, on va dire le premier trait peut-être d'un engagement au sens d'une capacité à se greffer sur l'histoire et de tenter d'y insérer des énergies qui nous paraissent bonnes, c'est d'accepter cette espèce de posture de secondarité par rapport au contexte. Deuxième aspect, il nous dit, il nous faut répondre sur le champ. Et en effet, il y a urgence. Et il y a toujours urgence. Parce que, évidemment, aujourd'hui, la situation est par exemple dramatique écologiquement. Et qu'il y a urgence. Mais elle a toujours été dramatique. Simplement, le drame se montre à nos yeux de façon à chaque fois différente en fonction des époques, en fonction de, on pourrait dire, voilà, la situation historique. Quelle est notre urgence aujourd'hui? Il y en a un exercice peut-être de théorisation et ensuite d'action par rapport à ces urgences. Mais je crois que c'est important en effet de se dire que pour un chrétien, il y a toujours urgence. Il y a toujours eu des pauvres sacrifiés, il y a toujours eu la volonté de puissance qui, tel un rouleau compresseur, écrasait l'histoire. Il y a toujours, la crucifixion n'est pas un moment du passé, elle est un état du présent. Elle n'est pas une histoire derrière nous, elle est le sens de l'histoire. Pour les chrétiens, on espère que c'est un sens qui est dépassé, évidemment, transfiguré par la résurrection. Mais néanmoins, il y a urgence. Car c'est intolérable. Si on ouvre les yeux 2 minutes et qu'on regarde l'état du monde, c'est intolérable. Et donc, je crois que l'on a très, très raison de mettre l'accent sur l'idée d'une éthique de l'événement. Dans les évangiles, Dieu se donne comme événement, non seulement au sens plein théologique, puisqu'il s'incarne à un moment donné du temps. Le Christ est un événement. C'est l'événement avec un grand O même lorsqu'on est chrétien. Mais ensuite, c'est vrai aussi au niveau éthique, car certes, le Christ, dans le sermon sur la montagne, nous donne comme ça des indications sur quels sont les contenus d'engagement de notre vie. Mais lui-même, dans, on pourrait dire, l'exercice concret de la charité et de l'amour, est souvent dans une logique événementialiste. Il intervient, il répond à des situations, il surgit à des moments, au point que souvent, même autour de lui, on est surpris, on dit, mais c'est pas ça qui était prévu, là, il fallait que tu fasses ça. Oui, mais le pauvre est apparu. Oui, mais l'appel, là, regardez, écoutez, il est là, c'est là où je dois être. Donc, derrière l'événement, il n'y a pas simplement une histoire de préférence morale. Il y a une disposition fondamentale, éthique, qui est conforme non seulement à la théologie, mais aussi à la pratique de la charité par le Christ lui-même. Donc, à mon avis, il y a quelque chose de très profond à entendre de ce côté. Troisième point, nous sommes déjà engagés, embarqués, préoccupés, en effet. Je vais passer rapidement, car je l'ai déjà dit, il faut sortir de l'engagement comme une chose qui serait extérieure et vers laquelle je vais. Non, l'engagement, dans un premier sens, c'est ce dans quoi je suis déjà pris. Et donc, ça demande un exercice d'abord de prise de conscience. À quoi j'appartiens? Dans quoi je suis engagé? À quoi je participe? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je fais un petit exercice de prise de conscience économique, par exemple. À quoi je participe économiquement? Dans ma consommation, dans l'accumulation de ma richesse, dans les outils de production dans lesquels j'ai peut-être des parts, etc. Nous sommes des êtres engagés économiquement tous. Voilà. En tant que nous consommons et nous produisons et nous dépendons de la production. Donc, voilà, c'est un exemple. Un simple exemple pour dire que le premier exercice, sans doute, de l'engagement, c'est une prise de conscience du déjà-là, plutôt qu'une projection imaginaire qui a de bonnes chances d'être entassée de soi-même dans un objectif à atteindre, parfois très lointain. Hein? J'ai pu observer tout ça en moi, évidemment. Quand à l'adolescence, on veut s'engager, etc., il y a le risque hein, de tomber comme ça dans parfois une sorte de fantasme du grand soir. Alors que sans doute, il faut des objectifs très exigeants, mais il faut aussi d'abord hein, peut-être une prise de conscience de l'existant et personnel et collectif, évidemment. Quatrième point, l'abstention est illusoire. Alors ça me semble extrêmement important. Le choix n'est pas entre engagement et désengagement, mais il est entre engagement naïf, subi, irréfléchi, et engagement critique, actif, réfléchi. L'engagement naïf, subir, irréfléchi, c'est justement le fait de penser qu'on est comme un peu hors sol, qu'on n'est pas engagé, qu'on ne prend pas des options très claires, politiques, philosophiques, éthiques dans notre vie telle qu'elle s'incarne concrètement. Mais que ça va dépendre de nos choix à des moments donnés, par exemple qu'on va voter, qu'on va aider quelqu'un, etc. Le reste du temps, on serait comme retranché de l'engagement. L'abstention est illusoire et cela, c'est un trait permanent de notre condition. Et donc, ça suppose de faire un exercice permanent de travail critique sur soi-même pour faire quoi? Bah, tenter de, du par, je l'ai dit, prendre conscience des engagements que nous avons déjà pris et ensuite tenter de les convertir avec d'autres. Parce qu'évidemment, nous sommes des êtres sociaux et je pense que l'anthropologie chrétienne est une anthropologie communautaire, hein, ecclésiale. Et donc, les convertir collectivement pour se rendre ensemble dépendants, pour participer ensemble, pour se relier ensemble à des structures collectives qui nous paraissent conformes aux exigences éthiques, spirituelles, politiques que nous avons. Donc, petit bilan, nous sommes déjà engagés et la liberté de l'engagement est moins d'inventer d'abord un engagement que de prendre conscience des engagements déjà là et de travailler à les convertir pour tenter de les rendre conformes à le sens, au sens que nous voyons. Exemple, si je poursuis mon exemple avec l'engagement économique, vous disiez, nous sommes tous voilà, déjà engagés économiquement, nous avons déjà une place dans l'appareil productif, une place dans l'appareil de la consommation. Eh bien, convertir, ça peut vouloir dire, par exemple, décider de prendre son argent et puis de le mettre dans une institution financière qui nous paraît suivre des finalités conformes au bien commun. Il ne s'agit pas. Alors peut-être que si, hein, peut-être que le geste ultime, c'est d'abandonner tout argent, hein, tel Saint François, et se déposséder totalement. Mais peut-être que dans un premier temps, il s'agit de convertir. Voilà. Voir les moyens que nous avons et tenter cet exercice de conversion collective. Donc dans la communion qui vient, si je fais un petit parallèle avec notre travail, je dis notre parce que c'est un livre coécrit avec Anne Wallace et Paul Colora, nous avons développé un concept qui s'appelle la surpolitisation. Alors c'est un nom un peu barbare sur lequel je vais aller un peu rapidement, mais en gros, qui est l'idée qu'un trait particulier de notre époque, c'est de nous enrôler dès notre naissance, presque, dans un type de logique économique qui est destructeur. C'est-à-dire que, il faut arrêter de voir la politique comme un espace ponctuel de la vie collective qui pourrait être plus ou moins positif. Ce n'est pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, la politique, c'est un mécanisme de pouvoir, c'est un ensemble de mécanismes de pouvoir qui met en péril la survie même de l'humanité, qui s'est aliéné, pour le coup négativement, dans une économie qui n'a plus sens et qui est en train de menacer les conditions de vie matérielle de millions et de millions de personnes. Et quand je dis qu'on est surpolitisé à la naissance, c'est que on voit bien que ça dépend pas de l'un, de l'autre, de la bonne volonté, etc. C'est qu'en tant qu'occidentaux d'un pays comme la France, nous sommes pris, qu'on veuille ou non, par tout un tas de mécanismes hein, financiers, de consommation, etc. Nous sommes pris dans cet immense mécanisme en marche. Et donc nous assumons en effet de penser la politique non pas comme une action ponctuelle, mais comme un donné de départ. Et nous la pensons d'abord comme un type de pouvoir. La politique pour nous, c'est pas d'abord des idéologies en confrontation, ça peut l'être, mais d'abord ça doit être pensé comme l'État qui est le nôtre, citoyen du XXIe siècle de la France, citoyen qui dépendant, qui sont pris dans ce pouvoir en marche qui, à bien des égards, menace l'équilibre mondial. Donc voilà, je vous lis une phrase qui exprime un peu ça, mais donc la surpolitisation est l'inscription du pouvoir au plus profond et au plus intime de nos existences. Ce pouvoir nous engage sans que nous l'ayons choisi. Ce pouvoir est celui du capitalisme contemporain. Car il faut quand même à un moment donné nommer l'ennemi. Et que le pape François le fait très bien, je ne vois pas pourquoi nous, laïcs, on n'oserait pas, par une sorte de pudeur, à un moment donné, pas dire que oui, le capitalisme, en tant que système de production qui voit la légitimité de l'économie comme le seul critère, c'est le profit, qui considère le travail comme une marchandise, un pur moyen, l'inverse total de ce que la doctrine sociale de l'Église dit, qui, troisième chose, marchandise jusqu'aux choses les plus communes, hein, la sphère du marché en logique capitaliste, elle n'a pas de fin, hein. C'est à l'infini. Marx l'avait très bien vu, hein. Je ne suis pas marxiste surtout, mais là-dessus, je pense qu'il a tout à fait raison. Quand il parle du capitalisme comme idole, hein, parce qu'il y a beaucoup de paraboles théologiques chez Marx, et ce qui veut dire qu'il voit bien que le capitalisme est dans un processus de poursuite, d'extension d'une sphère à l'infini. Et il n'y a pas de fin à ça. Il faut lui opposer une autre logique. Là-dessus, sur ce point, un dernier point, la destination universelle des biens, c'est un rempart magnifique. Parce que du moment où vous dites certains biens doivent être retranchés de la logique de l'offre et de la demande au sens libéral, car ce sont des biens communs, ce sont des ressources mises dans la création pour être à destination de tous, exemple, évidemment, vous mettez un rempart théorique, philosophique, extrêmement puissant. Donc, que faire face à cet état de crise dans une situation d'enrôlement tragique? Alors évidemment, déjà, tenter de surmonter peut-être l'effet premier qui peut découler de cette prise de conscience, qui est un état d'accablement, voilà, de désespoir, parfois d'apocalypsisme un peu mal placé. C'est-à-dire évidemment, tout ça, c'est des maladies que charrie notre société, hein, inévitablement. Hein, les sortes de terreurs apocalyptiques qui reviennent, etc. Simplement, est-ce qu'on les voit comme des effets ou comme des causes? Le jour que je parlais avec quelqu'un qui me dit, mais le problème, ce n'est pas le capitalisme, c'est l'écologie aujourd'hui. Pourquoi? Il dit, bah, l'écologie, parce qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle religion. Oh, mon Dieu. C'est la nouvelle religion, l'écologie. Oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. Je ne dis pas du tout que tout discours écologique, je suis d'accord avec lui. Hein. Il y a un discours écologique, je ne sais pas, moi, par exemple, panthéiste, avec lequel je ne suis pas très à l'aise. Et je suis d'accord qu'il faudra lui opposer des arguments. Mais c'est quoi la priorité? Et surtout, c'est quoi la cause de quel effet? Ou l'effet de quelle cause? Quelle priorité on a? Voilà. C'est là, à mon avis, que se départage, sans doute, des sensibilités, pas seulement politiques. Je crois que c'est des sensibilités profondément spirituelles, car c'est une tentative de nuire le monde, de le voir, à la lumière de quel principe? Ce que je vous ai dit là tout à l'heure ne peut être que vu à la lumière de certains principes que moi je n'ai pas inventés, hein, que j'ai sagement lus quand j'ai potassé ma doctrine sociale, quand j'ai lu les théologiens, quand j'ai lu ça. C'est un. Voilà. Je crois que quand on est chrétien, on n'invente pas grand-chose. On confronte une pensée millénaire à laquelle on a confiance avec une situation. Voilà. C'est ce que j'essaie de faire, mais je n'ai pas du tout de prétention à inventer quoi que ce soit. Donc, pour faire, une fois qu'on a dépassé cet état un peu de. bah voilà, d'accablement, etc. Bon, c'est pas, on sait qu'en tant que chrétien, il faut qu'on dépasse ça. On n'est pas appelé à, comme disait Nietzsche, à avoir des visages d'enterrement. Il faut une sorte d'espérance. Il faut montrer que on peut combattre et dépasser cette situation. Donc, je crois qu'il faut un double geste. Déjà, en travail, j'en ai déjà un peu parlé de, moi, j'appelle ça le dégagement. Alors, le dégagement, faut pas l'entendre comme, évidemment, l'absence d'engagement. C'est pas ça. C'est le fait de prendre conscience, comme je l'ai dit, de nos engagements déjà là, qui tiennent à notre situation concrète, historique, existentielle, de citoyens tels que nous sommes aujourd'hui dans le pays dans lequel nous sommes. Donc, prendre conscience de ça et tenter de se dégager autant que possible des structures auxquelles nous participons et qui, au fond, sont pas conformes à ce que nous pensons être le bien commun. Et ça, évidemment, ça se fait collectivement. Ça se fait collectivement parce que, encore une fois, je l'ai expliqué, nous sommes dans un cadre anthropologique, communautaire, ecclésial, social. Donc ça, c'est le premier axe, se dégager. Alors, exemple, voilà, je trouve que, par exemple, ce qui se passe sur la question du logement est extrêmement intéressant à ce niveau-là. Moi, je vois dans mon entourage à Paris beaucoup de jeunes se questionner sur comment, voilà, on a des, ben, on peut pousser à avoir une pratique de la propriété qui voit notre appartement comme notre bien à nous seulement, face auquel il y aura le bien des autres, etc. Comment changer ça pour, par exemple, que notre bien deviennent partagés, deviennent collectifs, deviennent parfois mis au service de personnes qui en ont besoin, etc. Donc, et tenter le plus possible, ça ne veut pas dire de rendre tout collectif n'importe comment. Tenter de mettre déjà en question nos pratiques les plus matérielles. Alors, nos plus matérielles, j'insiste, c'est très très important car la surpolitisation dont je parlais, je crois qu'elle nous possède par justement nos comportements matériels, hein, même s'il y a une idéologie derrière. Mais c'est dans nos comportements les plus concrets qu'elle s'infiltre. Donc, ce dégagement, en effet, il peut passer par plein de choses. Nous, quand on a fait le Simon de Dorothy à Paris, il y avait clairement cette idée, hein, je l'ai théorisé après, mais au fond, le Dorothy, c'est quoi? C'est une tentative de, on pourrait dire, substituer à ce à quoi vous pousse la vie urbaine parisienne, c'est-à-dire une sorte d'éclatement dans plein de lieux différents, on donne un peu par-ci, par-là. Au fond, on flotte. Tenter de substituer ça, donc son temps libre en fait, un organisme collectif, communautaire, dans lequel on puisse mettre en place des initiatives qui nous semblent, disons, structurelles, quoi. On va tenter de se former ensemble à comment on change nos habitudes de consommation, ensemble, comment on tente d'aider telle catégorie de la population qui est là dans notre quartier. Ensemble, comment on pense telle problématique politique, écologique, etc. Oui. Au fond, c'est quoi? C'est une tentative de substituer le temps, au temps libre tel qu'il nous est, tel qu'on y est poussé, un temps libre réfléchi. Donc, c'est un exercice d'abord de dégagement. Vous devez résister à une tendance naturelle et sociale à laquelle vous êtes poussé, inévitablement. Et je pense que c'est très important d'inviter à cet exercice de résistance, de retenue. Et de remplacement. Une fois que ça a été, alors ça, c'est évidemment, c'est un travail continu, hein, ce sera jamais fini, jamais achevé, mais en tout cas, c'est un état d'esprit, à mon avis, collectif et personnel qu'il faut tenter de nourrir. Eh bien, il faut tenter, à mon avis, d'aller un peu plus loin. Et donc, moi, j'appelle cela la politisation par la foi, et je vous en dirai un mot un peu plus tard. Je regarde l'heure. Je vois combien là. Okay. En fait, c'est mon portable qui est cassé, du coup, je vois pas le. 40 minutes ou 50 minutes? Ok, j'ai encore un quart d'heure, à peu près. Un quart d'heure, 20 minutes, ok. Alors, deuxième partie, rapidement, la question de l'engagement face à l'histoire. Oui, alors ça, c'est une partie plus, un peu plus sur la notion d'histoire. Pour ça, je vais partir de Blaise Pascal, qui est un de mes auteurs favoris. Favori. Et puis, je suis toujours émerveillé de voir à quel point les élèves adorent Blaise Pascal. Quand on explique Blaise Pascal, ils adorent tous Blaise Pascal. Hier, je parlais avec des élèves de la notion de misère et grandeur de l'âme. Il est pas spécialement chrétien. Ils étaient tous là. Waouh! Voilà, Blaise Pascal, vraiment du lourd. Pensée, fragment 233, édition Brunschvig. Pascal, cette phrase, ce n'est pas volontaire, vous êtes embarqué. Ce n'est pas volontaire, vous êtes embarqué. Alors, évidemment, il faut un mot du contexte, car cette phrase saisissante, elle intervient dans le fameux fragment du Paris. Donc, il s'agit, hein, non pas comme j'entends parfois, ça me fait toujours hurler, de nous dire, ah bah oui, il faut se convertir par calcul rationnel, c'est très bien, Paris sur Dieu existe, t'as pas besoin d'y croire, et comme ça tu seras sans doute sauvé, ce sera génial. Évidemment, c'est pas le but de Pascal. Le but de Pascal, c'est ironiquement de prendre au piège son interlocuteur imaginaire, qui est du coup un sceptique rationnel, en soi-disant tout à fait rationnel, le prendre à son propre piège en lui montrant que même dans la logique rationnelle, il a intérêt à parier. Donc en fait, il y a un rejet de l'argument agnostique. Il prend l'agnostic rationnel à son propre piège. Il montre ainsi la nécessité rationnelle du pari. Bref, il prend les armes de la raison face à quelqu'un qui, justement, explique que la foi, c'est irrationnel et que lui, il a la raison. Et que cet interlocuteur, justement, pascalien, c'est intéressant d'un point de vue de l'engagement parce qu'il justifie le fait d'être du côté du rationnel, la réflexion logique, pour justifier un non-engagement. Dire, moi je ne me prononce pas, peut-être que Dieu existe, peut-être pas, mais il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc la finalité de Pascal, elle est certes apologétique, hein, c'est comme toutes les pensées, il y a un niveau des pensées qui est apologétique, c'est-à-dire chercher à justifier, à rendre compte rationnellement de la foi, mais ça va aussi plus loin. Il y a, je crois, une finalité existentielle, dans la mesure où Pascal veut susciter en nous une prise de conscience. Quelle est-elle, je crois? Nous sommes à tout instant au carrefour d'une grande décision. Nous sommes à tout instant au carrefour d'une grande décision. C'est-à-dire que tout instant, c'est l'occasion d'un remplissage, on pourrait dire, par la charité, par la présence de Dieu. Tout instant, nous pouvons opérer ce basculement, convertir notre cœur. Voilà. Alors évidemment, il faut se méfier des interprétations trop instantanéistes. L'idée, c'est moins d'être un instant rempli et d'avoir comme ça une logique de voir des instants qui succèdent et qui à chaque fois devraient se remplir de Dieu. Non, l'idée, c'est sans doute de, dans quelques instants, se remplir pour ensuite voir notre vie être infléchie dans certaines directions. Hein, ça, Kierkegaard, un philosophe danois que j'aime beaucoup, le dit bien, il dit la conversion, c'est moins l'instant qui change tout que le temps qui change tout après l'instant de conversion. Le temps prend une nouvelle saveur. Le temps change parce que il y a eu une expérience. Et cette expérience, elle nous rappelle d'ailleurs ce que je disais à mon avis avant sur la question de l'événement. Car ce qui se passe dans l'instant, c'est un événement, justement. Hein, c'est quelque chose qui nous saisit, qui nous prend parfois et souvent même un peu de façon imprévisible. Et finalement, Pascal veut susciter en nous là, ce sentiment un peu d'urgence, hein, pour retrouver un terme qui a déjà été utilisé. À tout instant, Dieu est là, te tend la main, il veut changer ta vie. Et si nous résistons, et ça je pense que Pascal nous met un peu sur la voie, si nous résistons, c'est peut-être moins parce que nous n'avons pas envie de rencontrer Dieu. Pourquoi après tout? C'est peut-être parce que nous ne voulons pas changer notre vie. C'est que ce qui nous fait peur, c'est peut-être moins l'instant de la rencontre et de la conversion que la suite. Parce que du coup, il a fallu se cultiver patiemment, laborieusement, les conséquences de cette rencontre. Et Pascal a bien identifié qu'il parlait hein, de la fuite. Hein. La généalogie Pascal, hein, souvent on retient ce concept de divertissement, et plus largement, c'est le concept de fuite. Nous fuyons, nous tentons de nous cacher de la présence de Dieu, car nous sommes effrayés de voir à quelles conséquences cela pourrait nous conduire. Si on prend au sérieux Pascal et qu'on voit la vie comme du coup un embarquement malgré nous, hein, Dieu nous prend malgré nous et nous embarque vers une grande décision à prendre, si on voit la vie ainsi, on voit bien que ce n'est pas seulement notre vie personnelle qui est engagée, dans ce combat, c'est l'histoire humaine. L'histoire humaine, je crois que cela demande un regard profondément théologique. L'histoire n'est pas une science seulement profane, ça l'est évidemment, grand respect pour les sciences humaines, mais c'est aussi lorsqu'on est croyant, je crois, le lieu de déploiement du dessein divin. Et ce dessein divin, c'est aussi finalement l'histoire comme un lieu de confrontation entre des logiques d'opposition qui sont, pour le dire dans un langage augustinien, la confrontation de la cité de Dieu et de la cité des hommes. Notre condition à la fois personnelle et collective est comme on est dans cette grande dramaturgie du salut, on pourrait dire, pour parler comme Henri de Lubac, qui justement avait cette idée d'une histoire, lieu où s'élabore le salut. Et donc, notre temps présent n'est pas un temps coupé de, pour le dire dans un mot un peu technique, l'eschatologie, c'est-à-dire le temps des fins dernières, le temps de l'après notre vie. L'eschatologie se donne bien plutôt comme elle est déjà contenue, hein, elle est déjà là, elle est déjà en train de se, on pourrait dire, de s'ébaucher dans l'histoire présente, et cela au niveau tant individuel qu'au niveau collectif. Et donc je crois qu'aujourd'hui, nous avons la chance de vivre une histoire humaine qui, je veux dire, de façon peut-être comme ça n'est jamais arrivé, est une histoire universelle, justement. Quoi de plus universel que la crise écologique? Quoi de plus universel que certains problèmes comme, je sais pas, moi, la gestion des données? Il y a tout un tas de problèmes où on sait très bien qu'on est embarqués tous ensemble. Enfin! Alors qu'on aurait, pendant si longtemps, on a pu se dire, ah bah, eux là-bas, ça ne nous concerne pas, ils font ce qu'ils veulent aussi, là-bas, c'est des barbares, c'est pas des humains, etc. Bon, aujourd'hui, on sait très bien qu'on est dans un grand bateau et que on est au carrefour. Évidemment, cette dramaturgie du carrefour de la décision ne doit pas être envisagée de façon manichéenne, de façon trop simpliste. C'est plutôt un concept logique qui nous éclaire sur l'histoire en cours, mais ça ne doit pas nous conduire à penser qu'on en épuise le sens. Hein. S'il est vrai que l'histoire humaine est au carrefour et que, au fait, est une dramaturgie du salut, cela passe par de multiples niveaux très complexes à saisir, passe au travers de nous également. Faut se garder de tout manichéisme en la matière. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a le camp du bien contre le camp du mal. Il s'agit plutôt de dire que les logiques du bien et du mal, les logiques du salut et les logiques de la perte, finalement, traversent les structures, les communautés, les personnes. Et que donc, si on voit, si on part de ce constat pour penser l'engagement, on voit que c'est très intéressant parce qu'il ne s'agit pas seulement de s'engager en tant qu'individu pour la cause qu'on croit être la plus sympathique. Non, il s'agit, dans ce contexte d'une histoire envisagée comme dramaturgie du salut, de tenter de rejoindre, en effet, la cité de Dieu en train de se faire, le temps de Dieu en train d'être moissonné. Les risques par rapport à ça, évidemment, ce serait de penser que ce concept, cette idée théologique, qui à mon avis est vraie, est réductible à des réalités ontologiques, c'est-à-dire se dire, ah, ben, la cité de Dieu, c'est ça. La cité de Dieu, c'est tel État, la cité de Dieu, c'est telle communauté, la cité de Dieu. Non, évidemment, ça, c'est un grand risque qu'il faut se garder de faire, c'est-à-dire qu'il faut résister à toute logique d'essentialisation sainte ou de totalisation. Et inversement, il faut résister à la logique de l'essentialisation diabolique. Voilà. Mais dire cela, on ne veut pas dire se passer de ces concepts, justement. C'est ça, à mon avis, la tension à garder. Il y a bien, dans le temps de l'histoire humaine, dans le temps de l'histoire présente, un affrontement qui nous dépasse largement de la cité de Dieu en train de s'ébaucher et de la cité des hommes qui, à bien des égards, domine déjà. Et cela aura une traduction eschatologique. Et nous sommes pris dans cette histoire. Et par nos engagements, nous participons à cette histoire. Voilà. Je pense qu'il est très important aujourd'hui, on ne cesse de parler dans la sphère profane d'apocalypse, de fin du monde, où tout ce langage revient, qu'il est très, très important que la théologie, l'Église, les chrétiens assument leur composante finalement théologique et eschatologique de leur pensée. Car ce qu'on voit partout, c'est justement des récits alternatifs. Hein? Des récits alternatifs qui tentent de parler de l'histoire avec un grand H, mais qui souvent en parlent de façon, à mon avis, dangereuse. Et donc, il y a une urgence, là encore, je crois, à reparler d'eschatologie de manière publique. Je vous accorde que c'est délicat. Et que, y a plein de pièges là-dedans. Hein. Ça, je suis tout à fait d'accord à le reconnaître. Pourquoi ça a un avantage direct par rapport à la question de l'engagement? C'est que cette lecture-là intensifie notre conscience morale et politique. Voilà, ça intensifie parce qu'on se dit c'est pas seulement morale politique, c'est pas seulement, c'est beaucoup plus que ça. On est pris dans quelque chose qui va beaucoup plus loin que ce à quoi on pouvait s'attendre. Mais cela, ça suppose en effet de déconstruire un petit peu des logiques qui ont été très intériorisées dans la modernité, qui sont des séparations très strictes entre des sphères qu'on pense complètement distinctes. L'histoire profane et l'histoire sainte, par exemple. Il y aurait les sciences historiques, et puis il y aurait l'histoire sainte. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, c'est l'histoire des grands saints, des grandes saintes, mais c'est beaucoup plus que ça. S'il y a vraiment une histoire sainte, elle est prise dans l'histoire profane et elle est l'espèce de processus de dévoilement et de révélation progressif de la présence de Dieu dans l'histoire, de la grâce dans l'histoire et par opposition de la logique de la destruction dans l'histoire. C'est pour ça qu'à mon avis, s'il y a bien un livre qu'il est urgent de relire, c'est La Cité de Dieu de Saint-Augustin. C'est absolument extraordinaire là-dessus. Il parle à la fois de l'imbrication des deux cités et en même temps comment, avec le temps qui passe, les deux cités ont tendance à se confronter, à s'affronter de façon de plus en plus vigoureuse. Et il résiste à toute logique d'identification institutionnelle de l'un et de l'autre. C'est très intéressant, ça. Après tout, il aurait très bien pu dire, bah, le mal, c'est ça, le bien, c'est l'Église. Alors, parfois, il y a certaines tendances, il y a certaines tentations qu'il a, mais il résiste. Il résiste. Il voit que c'est plus complexe que ça. Je terminerai du coup avec deux mots sur ce que nous essayons de faire avec le collectif Anastasis. Donc, il y a un collectif politique chrétien. Alors, c'est un collectif qu'on a créé il y a 1 an et demi, qui se propose de faire quoi? Qui se propose de produire une pensée théologique au contact des événements. C'est-à-dire d'utiliser les ressources chrétiennes, les ressources de la tradition, pour vraiment s'engager dans des sujets, des situations concrètes que l'histoire nous livre. Tenter ce pari de dire la théologie, les traditions, les ressources chrétiennes ont quelque chose à proposer et à dire de l'événement, justement. Casser un peu cette idée d'une théologie seulement faite pour réfléchir de façon extrêmement abstraite, c'est très important. Mais seulement faite pour ça. Ouais. Tenter d'être dans une quelque chose de plus en prise, de plus qui mord plus sur la réalité historique en train de se faire. Donc, nous avons produit beaucoup de textes. Si ça vous intéresse vraiment, ce sera un grand plaisir d'en parler avec vous. On a la semaine, échanger. Vraiment, toujours très intéressé. N'hésitez pas. Donc, ça, c'est la première tâche du collectif Anastasis. La deuxième tâche, c'est se greffer à des actions. Qui sont souvent déjà présentes. C'est-à-dire, on ne va pas se dire il s'agit de créer un parti chrétien ou il s'agit de parler seulement aux chrétiens. Ce n'est pas vraiment ça notre but. Notre but, c'est plutôt qu'il y a des mobilisations dans la sphère collective. Comment, lorsque ça nous paraît aller dans le bon sens, comment on s'y greffe sans perdre ce qui nous anime, symboliquement. C'est-à-dire en y allant aussi, en parlant de foi quand c'est nécessaire, en tentant aussi d'avoir une créativité dans l'action qui est influencée par la spiritualité chrétienne, mais tenter d'y incarner, en fait, d'incarner au sein des mouvements, des mobilisations, lorsque ça nous paraît conforme au bien commun, d'y incarner une présence chrétienne. Voilà. Donc il y a ces deux lignes-là. Alors, je vous ai dit un peu de les grands, parce qu'il y a quand même en effet un cadre théologique et théorique sous-jacent à ce collectif Anastasis. Alors souvent on nous dit c'est les cathos de gauche, pourquoi pas, mais le christianisme supporte mal les adjectifs, et donc christianisme de gauche, vu ce que la gauche est, disons, une sorte d'identité politique très très complexe, multiple, avec plein de courants différents. En fait, ça dit pas grand-chose quand on dit christianisme de gauche, c'est pas très précis, quoi. Alors évidemment, on peut assumer l'étiquette comme ça, mais bon, ça nous tient à cœur d'expliciter davantage ce qui nous nourrit. Ce qui nous nourrit, du coup, c'est en effet, je dirais, l'urgence écologique, hein, l'idée qu'aujourd'hui, il y a un combat, une priorité qui est de rendre notre monde vivable à nouveau et durable, et que pour cela exige non seulement de réformer en profondeur le système économique, hein, donc d'avoir une critique assez radicale du système capitaliste, et en même temps de construire une anthropologie alternative à l'anthropologie libérale individualiste dont je vous parlais. C'est-à-dire qu'il faut une anthropologie de relation au vivant qui parvienne à conjuguer le fait que, nous en tout cas on pense en tant que chrétiens, l'humain a un rôle particulier dans la création, mais il a vraiment ce rôle de gardien de la création et qu'il est frère et sœur des autres êtres vivants et qu'il doit sortir de cette image anthropocentrée vraiment du dominant par la raison qui a le contrôle et la maîtrise des réalités vues comme simple stock matériel à exploiter, quoi. Ça, c'est une maladie qui nous semble vraiment profondément ancrée en nous et qui fait des ravages, quoi. Donc voilà, ça, il y a ce point-là. Sur la laïcité, je crois qu'il y a quelque chose qui nous marque un peu, c'est vraiment l'idée qu'il faut sortir d'un paradigme qui nous paraît faux, en fait, qui est de dire religion et politique n'ont rien à voir. Alors, moi, je suis très, très attaché à la laïcité, si la laïcité, c'est la séparation de l'État et de l'Église. Mais par contre, je ne suis plus d'accord pour dire que la religion et la politique n'ont rien à voir, je suis désolé. Pourquoi? Bah parce que la religion, déjà c'est un concept moderne hein, qui apparaît tardivement, mais si c'est la foi exercée collectivement, via la transmission de traditions, via des cérémonies, via des communautés, etc., mais ça a une portée politique. Évidemment, si politique, on entend organisation de la vie collective, quoi. Déjà, moi, je suis toujours très frappé quand on dit Jésus n'était pas une figure politique. Bah, je suis désolé, si. Il n'était pas politique dans la mesure où il n'a pas conquis le pouvoir institutionnel, je suis tout à fait d'accord. Donc il n'a pas fait de la politique telle qu'on s'attendait à ce qu'il pouvait en faire. Ça, c'est vrai. Par contre, il y a eu un effet politique de sa vie. Quand vous êtes condamné à mort par les deux pouvoirs religieux et politiques, c'est que globalement, vous avez quand même dérangé un peu le monde en place. Sinon, on ne s'intéresserait pas à vous. Donc moi, je crois que la vie du Christ est politique par ses effets. Alors, ces effets, si on veut être plus précis, c'est non seulement l'effet qu'il est condamné à mort par les pouvoirs politiques, institutionnels, du coup, mais il y a autre chose qui en témoigne, c'est qu'il propose une forme de vie qui bouleverse et qui renverse les pratiques habituelles de la vie. La domination, exclusion, il parle de charité, il parle de pardon. Là où il y a essentialisation de certaines communautés diabolisées, ou vu comme des inférieurs, il parle d'égalité, de fraternité humaine. Il y a une pratique évidente d'une forme de sobriété radicale dans le rapport aux besoins. Enfin, il y a tout un tas de traits. Alors évidemment, il faut se garder d'une sorte de tentative de faire de Jésus une sorte de programme, c'est pas ça. Mais en revanche, il faut s'inspirer de la forme de vie qui émane de lui et autour de lui, qu'il parvient à dessiner, pour la confronter à la forme de vie telle qu'on nous la propose. Et donc ça, moi, je n'ai pas d'autre mot pour dire politique, quoi. Je vois pas en quoi c'était pas de la politique. Donc, oui, pour pas instrumentaliser la religion dans la conquête du pouvoir institutionnel, tout à fait d'accord. Mais non, pour comme ça, être gêné de parler de portée politique de la foi. Voilà. Et d'ailleurs, d'un point de vue catholique, je suis très aligné avec ça, parce que là, la doctrine sociale de l'Église, voilà, elle ne cesse, je veux dire, de produire de la pensée qui a des, si on la prend sérieux, qui a des effets massifs, quoi. Massifs. Dernière petite chose, c'est qu'il y a ce concept de dessaisissement sur lequel je travaille beaucoup. En effet, pourquoi? C'est parce que, justement, dans cet exercice de déconstruction un petit peu de notre pensée moderne qui fait de la religion quelque chose de privé, qui fait de la foi quelque chose de non rationnel. Il me semble très important de montrer que l'originalité de l'engagement chrétien, c'est, je crois, de tenter de s'effacer derrière, en fait, les impulsions fondamentales qui nous font agir. Je m'explique. En tant que moderne, nous avons appris à décider de nos finalités. Un moderne, il fixe des objectifs, il mobilise des moyens pour atteindre ses objectifs. Il est en maîtrise de son action. Pour moi, il y a un problème. En tant que chrétien, la raison est un instrument. Un instrument qui doit apprendre à s'effacer derrière la réception des finalités qui lui sont données. Et ça, en tant que croyant, je crois qu'on le reçoit par la foi, par la vie intérieure, par la vie de prière, par le discernement, par tout un tas de techniques qu'il nous faut réapprendre collectivement et qu'il faut pousser jusqu'à leur terme. C'est-à-dire qu'une vraie action chrétienne collective, ce serait un exercice collectif de dessaisissement. C'est-à-dire, c'est plus, il s'agit plus de fixer soi-même son programme, il s'agit d'abord de faire le pari de se dire, mettons-nous en situation de recevoir des appels. Et je crois que si on ne prend pas cette orientation, il y a le grand risque, en fait, on reproduise comme ça, toujours, la tentative, finalement, de faire dans l'histoire humaine notre bien seulement, et non pas l'histoire de l'avènement de la grâce. Si on fait le pari, comme j'ai fait tout à l'heure avec Pascal, que l'histoire est le lieu d'avènement de la grâce qui nous sollicite et qui est en train de départager le monde en tendance adverse, si je fais ce pari-là, alors il est logique que je mette en place collectivement des techniques pour me rendre sensible à la grâce, pour la recevoir, et que cette réception soit ensuite productrice d'une action. Et donc, quand je parle de dessaisissement, j'entends cela, le fait de s'organiser pour recevoir ses finalités et non plus les dicter de façon auto-déterminée. Deuxième petit aspect que j'entends dans le dessaisissement, c'est qu'il me semble que ce que met au cœur la foi chrétienne, c'est le concept de vocation et non pas celui d'identité. Et aujourd'hui, nous sommes pris, malheureusement, et pour plein de raisons qui seraient complexes, à mon avis, à analyser, mais nous sommes pris dans cette espèce de débat sur l'identité nationale qui serait aussi nourrie d'une culture chrétienne, etc. Bon, on est piégé là-dedans. C'est un débat très complexe. Moi, j'ai tendance à penser qu'il faut changer de registre, quoi. Il faut qu'on parle de vocation. Je veux dire, le Christ ne transmet pas une identité, c'est pas vrai. L'identité, c'est une essence stable dans le temps. En philosophie, c'est ça l'identité. Ça se rapproche d'ailleurs du concept de substance. Donc, déjà, c'est grec, c'est pas juif. Donc déjà, on doit être inquiet. Parce que je crois vraiment qu'en théologie, il faut se repencher vers les sources hébraïques d'un point de vue conceptuel. Hein, les sources grecques sont des sources importantes, mais elles sont secondes quand même dans le cadre de la révélation. Elles ont été prises comme des outils d'interprétation, mais ce n'est pas des outils à la base qui étaient dans, vous voyez, la pensée juive. Donc je crois que la vocation a cet avantage de dire que bon, il n'y a pas, d'un point de vue chrétien, transmission d'une essence identique à elle-même dans le temps. Il y a événement, il y a conversion, il y a appel. Et c'est second par rapport à ce qu'on est. C'est-à-dire la vocation, elle est, justement, c'est un vocare en latin, appelé, hein. Il y a l'existence, ce modèle, après avoir vécu quelque chose. L'existence n'est pas d'abord dépositaire d'un noyau d'identité qu'elle transmet. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien transmettre ou ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun sens au concept d'identité. Par exemple, on peut très bien transmettre des façons de faire des rites, des façons de prier, des façons de s'éduquer, vous voyez, à la réception de la foi. Mais la foi en elle-même n'est pas une identité. Voilà. Et ça, je crois que c'est extrêmement important de le dire aujourd'hui. Donc, sur la laïcité, pour revenir à ça, oui, critique de la laïcité au sens que si c'est l'idée que religion et politique ont rien à voir, je ne vois pas comment, en tant que chrétien, on pourrait être d'accord avec ça. La politique entendue comme l'action collective et l'organisation des structures communes, en tant que croyant, on espère et on veut que ce soit inspiré par les finalités qu'on reçoit dans la foi. Et évidemment, ce n'est pas une mince affaire. Et ce sera jamais fini, et sans doute on n'y arrivera pas. Mais en tout cas, il faut se fixer cette, à mon avis, cet objectif-là. Et dernier point, d'un point de vue, il me semble, alors là, je dirais plus de géopolitique, mais au fond, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire universelle. C'est qu'aujourd'hui, je trouve que on a tendance à, on comprend bien, il y a une mondialisation qui nous déborde complètement, on est complètement impuissant, on se sent débordé, donc la logique un peu normale, c'est de revenir, de vouloir revenir à des frontières, un état-nation, des identités, etc. Par certains côtés, peut-être que oui, il faut rendre à nouveau la souveraineté à des échelons qui se sont un peu dépossédés. Mais d'un autre côté, je crois que face à cette situation mondialisée, il faut redécouvrir la traduction de l'universalisme de la foi sur le plan des structures de la vie collective. Et en cela, je renvoie directement à la doctrine sociale de l'Église, qui parle beaucoup, beaucoup du cadre des relations internationales. Elle en parle beaucoup, et elle a raison de le faire. Et elle parle d'internationalisme, parce qu'elle sait très bien que si on en reste au stade des États-nations, il y a de grandes chances qu'on arrive à une sorte de concurrence et à des logiques de confrontation des États les uns contre les autres. Et qu'il faudrait parvenir à ce que certaines prérogatives de bien commun ne dépendent pas de la volonté égoïste de certains États, mais soient bien du ressort d'une communauté internationale capable, qui relève moins bien, finalement, de ses ambitions. Et je trouve que dans notre contexte aujourd'hui, il est très très à la mode de taper contre les institutions internationales, de dire que c'est contraire à la souveraineté démocratique, etc. Je crois qu'au contraire, on a plutôt à découvrir, parce que elles ont très 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 peu de pouvoir aujourd'hui, mais à découvrir qu'il y a peut-être dans notre situation historique une invitation à penser un cadre institutionnel qui parvienne à enfin être au niveau des problèmes concrets qu'on rencontre. Comment on va parvenir à résoudre le problème écologique si on n'est pas en commun certains moyens et certains moyens contraignants? Si, je ne vois pas comment, à mon avis, on y arriverait. Donc, pour terminer, je vous remercie pour m'avoir écouté et discutons. Voilà, et il est arrivé le moment de poser des questions. Est-ce que vous avez des questions? Je commence avec les questions. Voilà. Bien que quelqu'un se lance. Merci beaucoup, ça je consonne pour l'essentiel avec ce que vous nous avez partagé. Puis ça ne m'étonne pas parce que j'avais déjà lu aussi quelques-uns de vos ouvrages, mais parfois entre l'écrit et puis l'oralité, il y a un décalage. Et donc, voilà, merci beaucoup. Je trouve que cette recherche d'équilibre entre une approche existentialiste d'un existentialisme chrétien, donc l'homme est ce qu'il se fait ou l'existence précède l'essence, qui pourrait avoir des relents de pélagianisme, c'est-à-dire qu'on compte beaucoup sur soi-même. L'équilibre entre cela et la logique de dessaisissement ou d'aliénation, qui au fond peut être une théologie de la grâce, de dire, en ma référence un peu, je pense à quelqu'un comme Madeleine d'Elbrel qui dit, il s'agit pas d'agir mais d'être agi. Donc, ça me parle beaucoup cette idée de dessaisissement et qui, quand il s'agit d'un dessaisissement entre les mains de Dieu et au fond, c'est peut-être le seul capable de faire ça, n'est pas une aliénation, mais vraiment une vraie découverte de notre liberté au sens le plus profond du terme. Donc voilà, cet équilibre entre l'engagement, donc l'avenir dépend de nous, notre engagement individuel et collectif, et en même temps, il y a les événements, il y a se laisser s'abandonner à la grâce de Dieu et à la lumière de l'esprit pour qu'il nous indique collectivement dans un discernement communautaire vers où nous devons aller. Il y a cet équilibre pour les paradoxes de la vie chrétienne finalement. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est une question, mais merci beaucoup. Des questions? Pourriez-vous lever la main comme ça, je commence à vous repérer.
Merci, Alain. Bon, moi, c'est une vraie question. Je m'interroge beaucoup depuis longtemps sur le lien entre capitalisme et liberté. Et j'arrive pas à trouver, parce que le capitalisme et l'ordre libéral, finalement, c'est presque concomitant dans l'histoire. Et je me dis, comment construire quelque chose où la liberté individuelle, la liberté d'entreprendre existe, sans aller jusqu'au méfait de la financiarisation telle qu'on connaît, etc. Et j'arrive pas à articuler, vous voyez ce que je veux dire, la question de la liberté, la question de la liberté d'entreprendre ou de capitalisme. Voilà. Si vous pouviez m'éclairer aussi.
On m'entend?
Oui.
Je crois que je suis convaincu en fait de la correspondance entre le libéralisme et le capitalisme personnellement. Parce que je crois que le libéralisme, justement, bien souvent dans cette idée, par exemple, de libre concurrence, ou justement, oui, de liberté d'entreprendre. Souvent, en fait, paradoxalement, se retrouve dépossédé par le capitalisme, qui est dans une logique de concentration extrême et de monopolisation. Pour moi, le capitalisme, c'est justement, il n'y a pas de limite, si vous voulez, à l'extension d'une structure lorsque ça marche, c'est rentable et ça fait du profit. Et donc, on assiste mécaniquement à la constitution, mais de monstres de puissance qui sont, mais impossible à détrôner, quoi. Ou alors, vraiment, il faut qu'il y ait, alors faut qu'il y ait des États qui s'y mettent, hein, parce que qu'il y a vraiment des cas extrêmes, peut-être que ça peut arriver. Mais je sais pas, je prends l'exemple aujourd'hui des réseaux sociaux. On assiste à une concentration énorme. Internet, pareil, concentration énorme. Et au point qu'il est presque que, en fait, ces entreprises deviennent des leviers de pouvoir politique. Quel intérêt auraient les États-Unis, par exemple, à chercher à détrôner Google pour des raisons d'égalité de concurrence ou se dire qu'il faut remettre quand même un peu de mesure parce que là, ça écrase trop le marché. Et ils n'ont pas intérêt parce que Google, c'est devenu finalement un outil de soft power mondial énorme. Et donc, je crois que... donc moi, j'ai l'impression... Alors, il y aurait d'autres choses à dire sur le libéralisme. Je pense que le libéralisme en lui-même pose certains problèmes, à mon avis. En termes en termes d'anthropologie derrière qu'il a, etc. Mais si on se concentre sur le capitalisme, je crois qu'en fait, il est quand même. Alors certes, il utilise d'un certain côté le libéralisme, mais je crois qu'à bien des égards, il est beaucoup plus le résultat finalement d'un rapport au développement et à l'argent qui est un peu en contradiction en fait, à certains principes du libéralisme. Moi, je le vois comme ça. D'autre part, oui, si, il y a un point commun, je crois, important, en effet, entre le libéralisme et le capitalisme, en ça, je vous rejoins, c'est cette espèce de neutralisation des fins, quoi. C'est-à-dire que on ne se prononce pas sur le contenu de la liberté, ouais, en droit libéral, bon, la liberté, c'est la liberté, si vous n'avez pas à la définir positivement, en fait, c'est eh bien chacun la définit, etc. Et ça, le capitalisme fait un peu pareil d'un point de vue du produit, en fait. La marchandise, elle n'a pas à être conforme à l'intérêt social ou écologique si elle s'écoule. Et ça, c'est ça qui me semble dramatique. C'est qu'en fait, il y a un économiste que j'aime bien qui s'appelle Polanyi, Karl Polanyi, des années 30, qui parlait de désencastrement du social vis-à-vis de l'économique, quoi. C'est-à-dire qu'on a constitué une sphère de l'économie coupée du social et du moral, quoi. Comme si elle était indépendante, comme si elle valait pour elle-même. Et alors cela a peut-être permis à certains moments donnés de l'histoire d'arriver à des pics de productivité, à des innovations, hein. Et peut-être dans le tas des conséquences de ça, des choses pas négatives. Mais je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, cette espèce de logique s'est retournée contre elle-même et à bien des cas, elle est devenue folle, quoi. Comment on peut aujourd'hui penser qu'il faut continuer de voir ce que produit l'économie comme quelque chose de neutre? C'est plus possible. il faut qu'on retrouve un pouvoir collectif de définition du contenu de la production. Voilà. J'ai bon espoir que il n'y a pas de fatalité à ce que ça donne forcément du stalinisme. Je suis bien d'accord pour dire que c'est compliqué historiquement, parce que les expériences qu'on a de tentatives de sortie sont pas bonnes. Hein. Je n'ai aucune espèce d'idéalisation pour le communisme de type soviétique, par an. Mais je crois que l'idée communiste, quand même, d'une mise en commun de certains biens vus comme non marchandisables, d'une part, et l'idée communiste aussi que la collectivité doit se prononcer sur le contenu de la production et ne doit pas la laisser comme ça à la liberté de certains, me paraît tout à fait essentiel, quoi. Et je pense qu'on peut arriver à ça tout en ménageant des marges de manœuvre aux individus. Voyez, on peut très bien imaginer un entrepreneur qui soit un peu contraint tenant un produit qu'il veut mettre sur le marché, mais qui néanmoins garde une initiative. Voilà, je l'espère en tout cas.
Je voulais savoir comment vous articulez l'espérance chrétienne avec l'espérance politique, parce que des eschatologies en politique, il y en a eu.
En fait, je poserais un peu le problème différemment. Je crois pas qu'il y ait, je crois qu'il y a qu'une espérance, en fait. Et je crois que donc mon espérance en tant que chrétien, bah, c'est de rencontrer Dieu, disons, et rencontrer totalement. Hein, c'est en cela que l'espérance déborde sur la vie terrestre. Hein, ça, je le reconnais tout à fait. C'est-à-dire l'espérance clôturée dans le temps historique, non. Là, je trouve ça problématique. Parce qu'on a bien la mort qui nous attend, et donc l'espérance transcende la mort. Néanmoins, l'espérance est déjà du présent. Parce que c'est la foi nous dit que Dieu n'est pas seulement une rencontre future, c'est une présence présente. Et que donc il s'agit en tant que croyant de la déceler, de la vivre dès maintenant. Voilà. Donc l'espérance chrétienne, voilà. Et je crois qu'il y a peut-être une troisième dimension de l'espérance chrétienne, c'est qu'elle n'est pas seulement auto-centrée. C'est pas seulement moi rencontrer Dieu un jour totalement et le rencontrer dès à présent. C'est aussi que ce monde soit plus à l'image de la volonté de Dieu. En tout cas, je vois vraiment ça comme une composante de l'espérance, c'est-à-dire on espère que Dieu, que la grâce de Dieu s'étende, qu'elle convertisse les cœurs, qu'elle ait compris pour ça. Et donc, pour répondre à votre question, je crois que l'espérance politique, moi, j'ai pas envie d'en faire autre chose, quoi. J'ai envie de l'intégrer dans cette triple composante de l'espérance, vous voyez. Ça ressemblerait plutôt à la troisième, du coup. C'est-à-dire que j'ai l'espoir d'initiatives collectives qui transforme la société, qui soit aussi des occasions de se rapprocher de Dieu. Il y a plein d'exemples, mais il y en a plein, quoi. Tellement je sais pas en choisir, mais là je reviens d'un festival Anastasie, vous voyez, où pendant 3 jours c'était super, on avait plus de 200 personnes, beaucoup de discussions, d'échanges, des temps de prière, etc. Bon, on a décidé vraiment de faire un festival le plus possible conforme à une écologie voilà, vraiment prise sérieusement, quoi. Donc on a par exemple produit ensemble les hosties, etc. Bon, il y a une loi qui se dégage, si vous voulez, de cet acte matériel collectif, qui fait que d'un coup la vie collective ressemble plus, dans l'impression, à la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'on se rend plus proche de sa création, on est du coup plus reconnaissant avec aussi le don de Dieu pour le monde. Ça l'incarne plus, vous voyez. Donc je crois qu'il y a comme ça, dans les conditions, l'action sur les conditions matérielles, des manières de faire qui nous rendent plus sensibles, en fait, à l'amour de Dieu. Je sais pas qui disait ça, je crois que c'est Pasolini, qui pourtant n'était pas du tout chrétien, qui disait ce qui est triste dans le monde moderne, c'est qu'il se rend imperméable à la grâce de Dieu. Ça m'a frappé parce que, bon, je suis un peu pessimiste, mais dans un sens, je vois ce qu'il veut dire, quoi. C'est que du moment où justement vous êtes dans un monde d'absence totale de dessaisissement, où c'est la raison auto-centrée qui décide de tout, bah peu à peu, ça se vide. Enfin, le monde commence vide d'une forme de sacré, de beauté, qui quand même sont des signes vivants d'une forme de divin. Hein. C'est pas le divin. Enfin, attention, mais c'est des signes, quoi. Là, j'habite dans l'Aisne. Bon, est-ce qu'on peut contempler un champ de betteraves tel que l'agriculture moderne nous dit que ça doit être, quoi? Oui, on peut quand même. Mais je pense qu'on contemple beaucoup plus facilement un bocage de permaculture, quoi. Et c'est pas par hasard. C'est qu'à mon avis, je crois qu'il y en a un qui exprime sans doute plus un rapport à la nature qui est plus proche de notre vérité profonde, quoi. Et donc voilà, donc moi l'espérance, j'ai tendance à l'avoir de façon. Et d'ailleurs, pour finir, parce que ça m'a fait repenser à quand j'avais 23 ans, une dizaine d'années, j'ai travaillé pour un député qui s'appelle Dominique Potier, qui est quelqu'un que j'aime énormément, qui est un député PS de Meurthe-et-Moselle, qui est paysan d'ailleurs, un des rares paysans de l'Assemblée nationale, et puis paysan vraiment, c'est un pays. Agriculture écologique, coopérative, etc. Quelqu'un d'admirable. Et Dominique, simplement, lui, il est un peu vieille gauche, quand même. C'est-à-dire que ce qui est parler du spirituel et du politique de façon trop proche, etc., ça, c'est pas sa culture. Il a pas été là-dedans. Donc, on a eu tout un tas de débats passionnants là-dessus. Et un jour, il a fait une conférence et il voulait intituler ça « Quelle espérance raisonnable pour demain ?» Et bien, je disais non. Pas possible, quoi. L'espérance, c'est pas raisonnable. C'est ce qui nous dessaisit, justement. C'est l'ouverture à l'impossible, quoi. Hein? Il faut espérer à l'impossible. Hein? C'est ça, la foi chrétienne. Hein? On espère que Dieu nous aime, qu'il est mort pour nous. Enfin, c'est quand même, ça dépasse quand même un peu la raison. C'est pas qu'on peut la penser, mais ça dépasse un peu la raison. Et donc, voilà, on a eu une discussion là-dessus. Je crois qu'il avait quand même maintenu l'espérance raisonnable pour demain.
Merci. Merci pour votre. C'est passionnant. Je trouve que vous êtes incroyablement franciscain quand même.
Ah, bah merci,
L'euphasie,
c'est formidable.
je note, hein, urgence écologique, réforme du capitalisme, anthropologie autolibérale fondée sur, voilà, rôle du frère, du gardien, société, religion, c'est Saint François. Enfin, on dit que Marie était tertiaire franciscaine, hein, mais bon, c'est une boutade. Je reviens sur la notion de l'espérance, peut-être pour revenir sur cette même question, mais un peu différemment. Comment ne pas être pessimiste? On regarde les courbes du GIEC et on couple ça avec les courbes du rapport Meadows. C'est catastrophique. Moi, j'ai un métier dans la propriété intellectuelle. Je suis au cœur de... Enfin, ça a aucun sens, quoi. Quand on regarde la géopolitique, la Chine, Trump, etc., quand on voit le niveau du débat politique, quand on voit la montée à droite ou à gauche des luttes de classe ou de race, enfin, on revient toujours à des choses qui sont aussi au cœur de l'âme humaine et qui n'étaient pas belles au XXe siècle, quoi. Quand on voit l'Église, au moins en France, qui s'effondre, enfin, l'engagement chrétien, l'engagement devant quelque chose d'aussi incroyablement vertigineux et chrétien où on devient un petit reste, enfin, c'est... Voilà, moi je... Et puis quand je vois mes enfants qui ont 17-18 ans, qui sont centrés sur le téléphone portable, enfin, quelle espérance, quoi. Pour moi, comment ne pas être pessimiste et quelle espérance transmettre aux enfants? Avec autre chose que des mots un peu ecclésiaux ou un peu désincarnés. On a besoin d'autres mots, on a aussi besoin de métarécits. Enfin, la droite ne produit pas d'espérance, la gauche produit de l'espérance, mais une espérance qui, hélas, parfois se retourne contre elle. Comment trouver, ne pas être pessimiste et quelle espérance transmettre?
Vous partez du postulat qu'il faut pas être pessimiste, mais je suis pas très d'accord. Je crois qu'il faut l'être, mais simplement faut l'appeler réaliste. C'est-à-dire qu'il y a un premier acte, à mon avis, de refus des fausses consolations qui est très important. Parce que c'est logique, d'ailleurs, on a un monde instable, des peurs naissent, il y a dans l'avenir des orientations possibles qui seraient dramatiques. Et du coup, rationnellement, on a envie de trouver des raisons d'aller bien, de dire, c'est pas, attends, il y a quand même des bonnes choses, et ce discours-là. Bon. Qui en fait est quand même, du point de vue structurel, j'entends, hein, il y a toujours des raisons de satisfaire, mais d'un point de vue d'orientation historique, est assez faux. Je crois qu'il faut de façon réaliste voir. Il y a peut-être un deuil à faire aussi, des fausses consolations, hein, chez moi. Vous voyez, aller au bout d'un constat grave, c'est bon aussi, dans un sens. Et donc, je crois que moi, j'aurais tendance à dire, soyons radicalement pessimistes, dans le sens réaliste, et adressons le bon constat. Sachant que déjà c'est pas une mince affaire hein, qu'on voit cet été l'espèce de quand même de remontée en puissance du climato-scepticisme. Voilà, on voit bien que en fait le constat il est pas du tout partagé, que les urgences, les priorités sont pas vues par tout le monde de la même manière. Donc je crois que déjà voilà, ce constat c'est utile. Et après, peut-être que moi, je dirais que justement, l'espérance, c'est pas tant refuser le pessimisme que transcender complètement les catégories du pessimisme et de l'optimisme, quoi. C'est de se dire que, voilà, peut-être peu importe, quoi, dans un sens, ce que le monde va être, il est possible qu'il devienne de pire en pire. Hein, c'est clairement une hypothèse. Et ben, la grâce, elle est là, elle chemine. Et il y a toujours une manière de s'y ouvrir et de la faire vivre. Moi, pour moi, elle est là, l'espérance. Elle est vraiment dans ce postulat. Ce n'est pas un postulat intellectuel hein, seulement. C'est aussi un postulat qui, à mon avis, doit se nourrir d'expériences concrètes, collectives et de pratiques. Et que si on pose ce postulat, bah, il y aura toujours une interstice, quoi. Et alors, le but, c'est que cette interstice, elle soit la plus vaste possible et qu'elle change les structures, quoi, totalement. Et si c'est pas possible, bah, il y aura quand même à vivre, quoi. Il y aura quand même à vivre de la grâce. J'en suis absolument persuadé. Pour finir, une petite histoire que j'ai trouvée marrante là, à nouveau sur le festival, c'est que j'ai un ami très très proche, bah, Paul, avec qui j'ai écrit la communion qui vient, qui est marié avec une femme pas chrétienne du tout. Et du coup, la question de l'éducation des enfants est un peu compliquée. Et ses enfants, évidemment, il voit pas l'intérêt d'aller dans le camp du papa parce que les avantages concrets sont faibles. Il s'agit d'aller à la messe une fois par semaine, d'aller au catéchisme. Et du coup, il s'appelle cette question de dire, mais comment je peux rendre ça bien, quoi? Et ils sont venus au festival. Et en fait, pendant 3 jours, ils sont mariés avec des enfants. Ils ont vécu un moment chrétien. C'était vraiment un moment chrétien. Il y avait des temps de prière. Aussi, et, mais vu que c'était pris dans une vie joyeuse, collective, avec d'autres enfants et tout, j'étais trop content. Et donc, à la fin du festival, ils m'ont dit, ah, mais c'est trop bien d'être chrétien. En fait, on veut et tout. Et en fait, je trouve ça incroyable parce que ça montre que peut-être c'est ça qu'on a peut-être du mal à faire. C'est comment. Il n'y a pas de raison, en fait, que le christianisme soit pas génial, quoi. Normalement, ça doit vraiment nous nourrir et tout. Et donc, peut-être qu'il s'agit de trouver des formes de le vivre collectivement. Génératrice de joie, de rencontres. Et ça, je suis bien d'accord, c'est difficile parce que justement, encore là, une fois, on dépend d'une vie moderne. Hein. Ce qu'étaient les paroisses avant, est-ce qu'elles sont maintenant? C'est pas pareil. Hein, les paroisses avant, c'était des repas, c'était des actions dans tous les sens. Voilà, moi, je le sais bien, on m'a raconté des choses. Aujourd'hui, beaucoup plus, c'est beaucoup plus centré autour d'un temps fort, le dimanche. Il y a encore plein de paroisses qui vont être géniales. Je ne suis pas du tout dans le rejet paroissial, mais on voit bien que c'est. On voit bien qu'on est en difficulté là-dessus. Si bien que dans la communauté qui vient, c'est pour ça qu'on a essayé de penser le concept de paroisse et de l'assumer. Au début, on appelait ça aux paroissiens. Alors l'éditrice au seuil, elle nous a dit, ah non, mais là, vous n'allez pas vendre les gars, hein, si vous êtes aux paroissiens. Donc on ne l'a pas appelé aux paroissiens, mais ce qu'on voulait, c'était quand même de justement vraiment mettre le concept de paroisse, parce qu'il nous semble magnifique ce concept. En grec, parokein, séjour, le séjour. Ce n'est pas la demeure, c'est le séjour, c'est le lieu. Du pèlerinage où on passe, voilà, un temps sur terre. C'est pas le lieu où on s'installe, qui est clôturé. C'est le lieu du séjour, du passage. Et puis c'est le lieu de la vie, quoi. Et quelle vie? Et c'est ça peut-être qu'il faut essayer de. Voilà, c'est une partie seulement de la réponse, mais peut-être dès qu'on est dans un défi à ce niveau-là, quoi.
Une remarque et une question. La remarque, vous avez cité quelqu'un qui disait que le monde se rendait imperméable à la grâce de Dieu. Quelle limitation de la grâce? C'est peut-être plutôt notre regard qu'il faudrait changer et la voir où elle est, même si évidemment elle peut s'incarner ou s'exprimer autrement qu'il y a X années. Deuxièmement, tout à l'heure, discrètement, vous avez tapé sur les pères de l'Église grecque. Qui aurait en quelque sorte reconceptualisé l'Ancien Testament, je caricature à votre pensée, pour les connaître un petit peu, j'aurais envie de dire que ces braves gens ont au contraire fait un travail absolument colossal et qui a à la fois tendance à être sous-estimé aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ou 60 ans, et qui a été une des nourrices, une des matrices du renouveau d'un certain nombre de pensées. Vatican II, œcuménisme, etc., c'est qu'ils ont réfléchi l'écart justement entre la pensée chrétienne et, pour aller très vite, la pensée grecque. Et ça n'est pas parce qu'ils ont repris à certains moments les concepts de substance, d'ousia ou de je ne sais quoi, qu'ils les ont lus dans le même sens que les autres. Et donc je trouve que c'est un lieu commun qui naît en Allemagne au XIXe siècle, hein, n'est-ce pas, l'hellénisation du christianisme qui le défigurerait. Et qui est souvent d'ailleurs mis en avant, porté en avant par une pensée théologiquement libérale et un peu moralisatrice très rapidement. Et donc j'ai envie, si vous voulez, de préciser ça. C'est-à-dire que le travail, me semble-t-il, un des aspects du travail des pères grecs, c'était au contraire d'incarner dans la pensée, dans l'intelligence de leur temps, ce que eux avaient reçu. Et d'ailleurs, je rappellerai que dans l'Ancien Testament, il y a des textes en grec, hein, quand même. Et donc j'avoue que j'ai réagi un petit peu vis-à-vis de cette, comment dire, opposition terme à terme. Voilà.
Merci. Je suis d'accord avec vous sur la première remarque. La deuxième, en fait, je serais d'accord avec vous sur un plan de l'histoire intellectuelle. Vraiment, j'ai sûrement pas votre connaissance des pères grecs et en plus de ce que j'ai lu, j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est pas tant le fait que les élèves théologiques aient utilisé des concepts grecs pour interpréter la révélation qui me pose question. C'est que j'ai plutôt l'impression que la constitution de l'Occident dans ses structures même d'organisation a eu tendance à beaucoup puiser du côté de Rome et d'Athènes, plus qu'à se laisser vraiment bouleverser peut-être par la portée de la révélation évangélique, si vous voulez. Si je prends un exemple, j'ai été en débat il n'y a pas si longtemps avec Chantal Delsol. Chez Chantal Delsol, il y a quelque chose d'une harmonie des trois sources de l'Occident pour elle, quoi. Rome, Jérusalem, Athènes, cela ferait une harmonie et ce serait équilibré. Et moi, j'ai tendance à penser qu'on a quand même eu tendance à délaisser un peu, je pense, des rapports à la, des rapports au monde, des rapports, des questions métaphysiques telles qu'elles étaient, elles se posaient en tout cas dans le monde hébraïque. J'ai peut-être été beaucoup influencé par Tresmontant là-dessus. Quand je l'ai lu, parce que c'est vrai que son essai sur la pensée hébraïque m'avait marqué, parce que aussi, je suis assez partisan de la philosophie qui met en son centre le concept de création, qui met en son centre le concept de temps, c'est-à-dire de l'idée que quand même, voilà, il y a quelque chose en construction, quoi, dans l'histoire, et que face à ça, on a eu tendance de plaquer justement des visions de l'histoire plutôt, enfin, c'est des Grecs, hein. L'âge d'or et une histoire quand même voilà qui va quand même vers une forme de d'éloignement par rapport à une source originelle ou alors récit moderne qui en fait est le décalque inversé hein, âge d'or à venir et on chemine quoi et je crois que là quand même c'est un exemple hein, mais je crois que je crois qu'il y a des problèmes un peu à ce niveau-là, quoi, dans une façon d'aborder les choses. Et que, quand j'en parlais, c'était vraiment sur la question de l'identité, oui. Question de l'identité, parce que je crois en effet que pour penser la personne humaine, voilà, et sa relation les uns avec les autres, je trouve que quand même, on est beaucoup en tant que chrétien habité très rapidement par des concepts qui ont une charge, je veux dire, qui ne sont pas neutres du tout, quoi. Voilà. C'est ça que je voulais dire.
Merci. Bon, peut-être je vais mettre alors deux dernières questions.
Je reviens un peu sur l'espérance et le pessimisme. Corinne Pelluchon, que vous devez connaître et avoir lu, hein, elle dit l'espérance, il faut avoir fait l'expérience de l'abandon. Et quand vous évoquez le deuil à faire, hein, il me semble que ça se rejoint pas mal. Et le dessaisissement, c'est peut-être aussi très proche, quoi, en fait. Alors, ma question, c'était quand même, dans votre livre là, sur la foi dessaisie, vous développez, mais vous ne l'avez pas dit beaucoup aujourd'hui, je crois, la dimension collective, commune, communautaire, quoi, en fait. Et le dessaisissement, j'avais noté aussi la volonté politique de l'Église, quoi. C'est une expression que vous prenez et j'aime bien, mais comment, alors au-delà de Anastasis, comment ça peut se traduire aujourd'hui? Moi, il me semble que la paroisse, c'est une figure. Comment elle peut évoluer? Comment des notions, des corps intermédiaires de l'Église autres que la paroisse pourraient ressurgir ou surgir, vous voyez, pour cette dimension de ces dessaisissements et en même temps d'engagement, quoi, en fait, hein, dans notre monde d'aujourd'hui.
Merci. Moi, je crois, en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses déjà, d'initiatives qui tentent de vivre un peu ça. Simplement, peut-être ce qui a parfois d'un peu décevant, c'est qu'on a l'impression qu'on a du mal à rendre compte de ce qu'on essaye de faire et à lui donner un sens aussi qui nous déborde un peu. J'ai l'impression qu'on est un peu pris parfois dans un piège du local aujourd'hui. C'est-à-dire que small is beautiful, faut être dans le petit geste, etc. J'ai beaucoup de mal avec ça. C'est-à-dire, pourtant, vraiment, c'est très important pour moi l'engagement concret, le terrain. Donc, les petits gestes, j'y crois. Mais simplement, je crois qu'il y a un risque à penser qu'ils seraient justifiés en eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire que je crois que ce qui est intéressant, c'est justement mettre en écho des initiatives très, très concrètes, très locales, avec un sens universel, avec ce qui nous déborde largement. Et d'ailleurs, ça me fait repenser à une phrase de Monnier où il dit le narcissisme du petit. C'est-à-dire qu'on a tendance à plus c'est petit, plus on maîtrise, plus c'est là, plus voilà. Donc peut-être qu'il y aurait un travail de mise en lien et d'explicitation du sens de ce qu'on essaie de faire collectivement pour que ça donne un souffle aussi, que ça soit visible et que ça puisse attirer aussi d'autres personnes, pas forcément chrétiennes, etc. Voilà. Et puis sur votre question sur l'Église, j'avoue que Anastasis, on a plutôt fait le pari d'être un mouvement de laïcs. Alors, il y a des religieux et religieuses qui ont pu venir au festival et qui sont bienvenus, évidemment. Mais je veux dire, nous, dans l'organisation, on est plutôt un mouvement de laïcs et on réagit plutôt à des événements de l'actualité, mais qui ne concernent pas forcément l'Église. Ça peut, hein, nous arriver de produire un ou deux textes sur des questions d'Église, mais on veut faire attention parce qu'on pense qu'il y a d'autres structures déjà qui font un peu ce travail. Et d'autre part, on a l'espoir que l'Église soit pas une fin en elle-même. Moi, je crois beaucoup en ça, c'est-à-dire que j'ai une ecclésiologie assez instrumentale, même si je crois que l'Église peut témoigner, hein, peut témoigner d'une forme de vie et d'une forme de sens transcendant dans notre vie. Mais je crois aussi qu'il ne faut pas hésiter à la voir comme un ensemble de moyens immobiliers, par exemple. Si. Quand je pense au Dorothy, très concrètement, c'est un local qu'on loue à tarif accessible parce que c'est grâce à l'Église. Et donc, tous ces moyens matériels, il faut aussi s'en saisir et puis tenter avec ça, faire des choses. Mais donc, du coup, vous voyez, l'Église, on veut pas être trop focalisé sur la question de la réforme, sur la question de la critique seulement de l'Église. Il faut le faire quand c'est nécessaire. Mais sinon, il faut aussi garder de l'énergie pour les sujets d'actualité qui débordent l'Église. Sinon, on se fait, on n'a pas, on n'a pas l'énergie, en fait, pour tout faire. Voilà.
Une dernière question.
Oui, dans votre éthique du dessaisissement, là, vous n'avez pas beaucoup parlé d'émerveillement et de beauté. Qu'est-ce quelle place vous accordez à ça? Pour moi, c'est vraiment essentiel, mais bien que ce ne soit pas le tout du dessaisissement, évidemment.
J'essaye de penser, et j'ai pas pu en parler, mais dans l'ouvrage, j'essaye de penser le lien entre contemplation et dessaisissement. C'est-à-dire que se dessaisir, c'est aussi, à mon avis, se disposer à voir, d'une certaine manière. et pas seulement avoir, c'est vrai que j'ai beaucoup mis l'accent étant donné le sujet, disposé à avoir des appels, disposé à entendre, voilà, des chemins sur lesquels agir, mais c'est aussi, vous avez raison, voir la beauté, voir la beauté du monde, quoi. Et en cela, il y a un poète, mon poète préféré, Philippe Jacotet, qui a une phrase que je trouve magnifique, qui dit que l'effacement soit ma façon de resplendir. Et enfin, chez lui, ce qui me touche beaucoup, c'est qu'il y a à la fois une éthique, le poète doit s'effacer pour pouvoir recevoir le monde, et en même temps, c'est pour pouvoir témoigner justement que le monde est beau, quoi, et le mettre dans ses poèmes, quoi. Et donc, j'ai écrit un petit livre sur Jacotet qui vise à essayer de montrer qu'il y a une spiritualité, je pense, dans sa poésie, qui n'est jamais explicitée en tant que dogme, mais qui est toujours en fait sous-jacente et qui nourrit toujours le rapport au monde. Et je pense que vous avez raison de mettre l'accent là-dessus, c'est-à-dire qu'on a autant besoin de poésie que de politique, sans doute, mais que c'est compliqué, c'est vrai, de tenir ensemble les langages parfois.
Eh bien, sur cette conclusion, voilà. Un grand merci, Foucault, pour cette conférence et pour la façon dont vous vous êtes engagé aussi dans le dialogue et l'échange avec tous. Merci beaucoup. Je rappelle qu'à l'extérieur,